La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
La semaine dernière, l'émission a été consacrée aux instruments de musique pratiqués par des gens à titre secondaire, en quelque sorte. Le jazzo flûte de Lou Armstrong, le saxo alto de Johnny Dodds et bien d'autres.
Mais aujourd'hui, on va parler d'instruments, mais alors vraiment marginaux dans le jazz, certains n'étant apparus même qu'une seule fois.
Oui, parce que beaucoup de musiciens ont eu l'idée de faire du jazz avec ce qui leur tombait sous la main. Et puis parallèlement à ça, d'autres musiciens, spécialistes d'autres musiques que le jazz, se sont dit pourquoi pas faire du jazz avec mon instrument. Hein ?
Alors ça donne quelque chose d'assez étonnant parce que ce sont pas des jazzmen parfois, hein, comme tu viens de le dire, mais ce sont souvent de ce fait des amoureux de cette musique jazz qu'ils ne pratiquent pas couramment. Hein.
Là, ça va dépendre des moments parce que nous allons commencer par l'instrument emblématique de notre chère station, c'est-à-dire
l'accordéon.
Et l'accordéon chromatique. Alors qu'est-ce que vous allez entendre ? Il fait dans le genre jazz manouche, avec un accordéoniste. Mais il faut savoir que son répertoire s'étend tous azimuts hein, et ne pratique pas que le jazz. Et le jazz fait simplement partie de leurs possibilités. Mais le résultat est intéressant.
Oui, effectivement, il s'agit du quartet Clément Reboul.
Lui, c'est le guitariste. Et l'accordéoniste s'appelle
Fred Gomez.
Et là, ils se sont simplement attaqués à un des grands classiques de la musique de jazz, un standard increvable qui s'appelle
I can give you anything but love.
Et là, c'est le moment de rappeler une chose, c'est que ce Fred Gomez, il ne fait finalement qu'appartenir à une tradition d'accordéoniste qui s'était plutôt formée avant la guerre et qui était rompue à tous les genres de musique. Et un exemple illustre dans notre cantal, c'est
notre ami Tonin Troupel, qui était un musicien de musique traditionnelle, un musicien de studio. Il adorait le jazz. Il a tout pratiqué, lui. Hein.
Et ça a été un très grand étonnement pour nous, il y a bien longtemps, dans une soirée un peu toute musique, où nous avions attaqué une série de standards de jazz, d'entendre soudain derrière nous l'accordéon qui nous emboîtait le pas et qui prenait son chorus comme tout le monde. Et c'était Tonin Troupel qui nous a expliqué, bah, vous savez, hein, avant la guerre, dans certains orchestres, d'accordéon, on faisait que du jazz.
Et il aimait ça, ça c'est vrai.
À souligner que M. Fred Gomez joue sur Cavagnolo avec une génération d'instruments qui fut fabriquée par Madame Paul Cavagnolo, soi-même fait main. Ça, c'était l'accordéon de la grande famille des chromatiques, mais il y a aussi les cousins diatoniques.
C'est plus petit que le chromatique, mais c'est beaucoup plus compliqué à jouer, parce qu'en réalité, vous tirez le soufflet, vous avez une note, vous poussez le soufflet, vous en avez une autre.
Avec le même doigté.
C'est franchement beaucoup plus compliqué. Et dans ce que nous allons vous passer, effectivement, on s'en aperçoit parce qu'il y a des problèmes techniques, carrément, qui font que c'est moins goulayant, moins facile.
Oui, ça manque de fluidité, effectivement, parce qu'il y a une gymnastique intellectuelle avec les tirés poussés, qui est quelque chose, quand je vois jouer un accordéoniste diatonique, je suis toujours totalement admiratif de ses possibilités intuitives de mathématiques.
C'est vrai, c'est pas simple. Hein.
Néanmoins, un héros de l'autre temps, nommé Erwan Tanguy, s'est mis en tête de jouer du jazz diatonique.
Et il va vous interpréter All of Me.
Voilà, il est tout seul et il a même livré sa tablature et son itinéraire de tir et poussé pour jouer All of Me. À vous de juger. Naturellement, dans notre chère station, l'évocation de l'accordéon, qu'il soit chromatique ou diatonique, appelle celle de la cornemuse.
Ce qui est chez nous la cabrette, mais qui est, dans l'Europe entière, l'instrument emblématique. Vous avez des cornemuses partout, en Espagne, en Grèce, en France bien sûr.
Et comme vous allez pouvoir entendre, il y en a même jusque chez les Noirs américains. Et le morceau qui vient est assez étonnant. D'ailleurs, nous dédions ce morceau à un commerçant de Saint-Flour qui nous a mis sur cette piste et qui nous a même donné l'idée de cette émission aux instruments inhabituels dans le jazz. Alors, avouez quand même que la cornemuse, c'est pas courant.
Finalement, vous allez l'entendre. C'est pas mal du tout.
Le héros du jour s'appelle Rufus Harley. Et il a enregistré avec son petit orchestre un morceau qui s'appelle naturellement
Bagpipe, ce qui veut dire cornemuse, blues. Ce qu'il faut rajouter, c'est que Rufus Harley porte un kilt et il est noir.
Il y a d'ailleurs un précédent célèbre, un autre orchestre sorti tout droit de Harlem et dirigé par le guitariste Tiny Grimes, s'appelait The Rockin' Highlanders. Et je ne suis pas certain qu'ils n'arboraient pas, eux également, une sorte d'habillement un peu à l'écossaise. Bagpipe, blues. We'll be right back. Naturellement, après les accordéons et la cornemuse,
On a tout de suite pensé à la vielle.
Mais nos recherches ne nous ont mené à rien de vraiment convaincant. Et pour tout vous dire, les incursions de la vielle dans le jazz sont plutôt dans un contexte de musique contemporaine. Vous savez, quelquefois, le mot jazz est une sorte de fourre-tout où on met tout sauf le classique. Et là, c'est vraiment le cas. Donc, pour la vielle qui swing, nous repasserons. Voilà.
Sauf si un de nos auditeurs peut nous donner un extrait de vielle qui swing, une vraie vielle jazz, on attend à ce moment-là.
Et en attendant, nous allons passer à un autre genre d'exercice. La personne qui vient maintenant vient du classique et elle a un répertoire jazz à telle enseigne que nous l'avons croisée dans un festival cet automne.
Il s'agit du festival de Saint-Amarin, festival de jazz.
C'est dans les Vosges. Vous voyez que le jazz est un peu partout. Et là, cette demoiselle arrive avec une magnifique harpe et un orchestre pour l'accompagner, avec batteur, guitare solo, un bassiste, enfin tout ce qu'il faut.
Tout à l'heure, je vous ai dit que la cornemuse était l'instrument européen, mais la harpe, c'est un instrument mondial dont on parle déjà dans la Bible, vous voyez.
Universel. Cette harpiste s'appelle Christine Lutz. Et le morceau qui vient s'appelle « I wonder where is my baby tonight ». Tout un programme, d'ailleurs.
Thank you.
Et maintenant, voilà un instrument bien rare dans le jazz. Quand je dis c'est dans le jazz, parce qu'au contraire, dans la musique classique, cet instrument-là est extrêmement répandu. Il s'agit du violoncelle.
En américain, cello. Dans le jazz qui swing, on a très peu enregistré le violoncelle. Et en fait, ça se résume, en ce qui concerne ce qui est le plus connu, à deux faces du bassiste Oscar Pettiford, qui jouait également du violoncelle. C'est peut-être pas très répandu dans le jazz, mais il y a pas mal de grands musiciens, saxophonistes en particulier, qui dans leurs jeunes années ont commencé le violoncelle comme d'autres commençaient le piano.
C'est le cas de Coleman Hawkins.
Ellington avait un bassiste absolument fabuleux qui s'appelait Oscar Pettiford. Et il a eu l'idée, puisque Oscar Pettiford jouait également du violoncelle, de lui proposer, lui tenant le piano, Ellington, d'enregistrer deux disques où l'instrument serait mis en valeur.
Mais il ne joue pas avec l'archet. Il fait tout en pizzicato. Donc, vous voyez ?
Comme quand il joue de la contrebasse. Et là, comme il n'y a que deux disques connus, on va vous les passer tous les deux. Le premier s'appelle
Perdido.
Et le deuxième, Blues for Blanton. Il faut savoir que Oscar Pettiford a pris à distance la suite chez Duke Ellington du fameux Jimmy Blanton qui révolutionna la contrebasse et qui est également connu pour avoir disparu à peine 20 ans. Enfant prodige en quelque sorte, dont les musiciens que vous allez entendre portent en eux finalement la mémoire. Thank you.
L'instrument que vous allez entendre maintenant, les gens en particulier le connaissent seulement à cause d'un film. Mais ce film, c'est certain, Lem Show, avec Marilyn Monroe qui joue du ukulélé.
Ukulélé, c'est une guitare très pratique pour emporter avec vous en voyage, parce que une sorte de guitare naine qui, à la limite, tiendrait pratiquement dans une trousse de toilette.
N'exagérons rien, mais bon.
Et alors, il est né un orchestre... toujours à Harlem d'ailleurs, qui a pratiqué le ukulélé à tel point qu'il y avait dans cet orchestre 3 ukulélés en même temps et un guitariste. Et ils ont démontré que le ukulélé pouvait swinguer autant que n'importe quoi. C'est de la très bonne musique et comme ils étaient généralement plutôt de bonne humeur, ils ne manquent pas de faire également de la parodie avec. Ça forme un mélange assez détonnant.
Vous allez entendre Nobody's Sweetheart où il y a un vocal qui imite Louis Armstrong et puis après Fats Waller, y allez donc.
Le où les chanteurs y vont vraiment de tout leur cœur dans cet orchestre. Sachez qu'ils s'appellent les Spirit of Rhythm.
Now you know about a sweetheart now. Don't baby you somehow. Fancy clothes, soft half gown, out of place in your own hometown. Walk down that avenue. People don't believe that it's you. Cause you've got painted lips and your painted eyes. In the arms of paradise, I only roam somehow. Cause you know what it's true or not.
Da 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 da.
Et maintenant, celui d'entre vous qui va savoir quel est cet instrument, je ne sais pas si on peut demander à Radio Marguerite de lui donner un prix. Voyez.
Ah oui, pour un quiz, ce sera vraiment parfait.
Allez, il s'appelle...
Le sarrusophone.
Hein ? Ça vous embouche à une coin.
Ça vient d'une époque où on cherchait à inventer de nouveaux instruments de musique, et le plus célèbre d'ailleurs fut le saxophone, inventé par M. Sax, et le sarrusophone, qui fut inventé par M. Sarrus, comporte comme le saxophone toute la gamme qui va du sopranino à la contrebasse.
Mais il n'a pas eu le même succès, hein, parce que tout le monde connaît un saxophone, mais un sarrusophone, c'est pas sûr. Hein.
Oui, alors je ne sais pas si ce que vous allez entendre vous semblera propre à assurer un succès pour un instrument, mais c'est une drôle d'idée. Dans ce disque enregistré aux côtés de Louis Armstrong sous la direction de Clarence Williams, qui en profitait pour faire chanter son épouse Eva Taylor.
Oh là là.
Affaire de famille. Sidney Bechet a eu l'idée totalement incongrue de s'emparer de cet instrument bizarre qu'est le sarrusophone basse.
Si on devait qualifier un peu la sonorité de cet instrument, c'est un peu la danse de l'ours, vous voyez. Quelque chose près.
Oui, c'est assez oursin, cette intervention de Sidney Bechet. Et naturellement, elle est restée extrêmement célèbre, puisque tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire marque les mémoires, comme le solo de Pipo de Goran Eriksson que nous entendîmes la semaine dernière avec l'anachronique Jazz Band. Le morceau s'appelle...
Mandy, Make Up Your Mind.
Nous allons passer aux instruments à clavier. Vous connaissez tous le piano et l'orgue qui sont très répandues dans le jazz.
Bah quand même, oui.
Mais voici venir un instrument qui a peu fonctionné en jazz.
Le clavecin. Le clavecin, c'est un instrument très ancien. C'est le premier piano, si on peut dire, avec un son métallique. Ce sont des instruments à cordes frappées.
Ouh là là, quelle science, madame !
N'est-ce pas ?
La personne qui tient le clavier dans le morceau qui vient s'appelle Don Engel. Et il professait, paraît-il,
que Bach était le véritable créateur du jazz.
Il a essayé de le démontrer avec ce que vous allez entendre en particulier.
Et bien sûr, pour démontrer plus fortement ça, il a utilisé le clavecin, qui était l'instrument d'époque de Bach, et il a fait comme Bach, thème et variation.
Ici, le thème est d'ailleurs plutôt rudimentaire, il faut bien l'avouer. C'est un morceau en mineur, c'est un morceau qui claque un peu, que Fats Waller enregistra dans un contexte plus habituel, et qui s'appelle
Minor Drag. Et maintenant, toujours dans les claviers, quelque chose de tout à fait particulier, non seulement au jazz, mais à la région du Mississippi. C'est l'orgue à vapeur.
Dit calliope.
On me dirait, mais qu'est-ce que c'est que ça, un orgue à vapeur ? Eh bien, tout simplement, on utilisait la vapeur des bateaux qui faisaient les allers-retours sur le Mississippi. On l'utilisait aussi comme force pour les orgues.
Vous aviez sur le pont supérieur du bateau une série de tuyaux et un type avec un clavier qui déclenchait les mécanismes. Et alors c'est très amusant à voir parce que la fumée sort des tuyaux à chaque note que le type joue. Et en plus, ça fait allumer des petites lumières selon les notes. C'est très américain aussi, naturellement. Tout ça, ça se passe sur le bateau resté, survivant, donc célèbre maintenant.
Le Natchez.
Le Natchez, le fameux Natchez, qui n'a d'ailleurs pas des roues latérales, mais une énorme roue arrière, qui est quand même une roue à aube. Et là, il faut bien reconnaître que c'est un instrument à la justesse plutôt douteuse. Je ne sais pas s'il y a un accordeur qui est passé par là. À mon avis, ça ne s'accordait pas. Bon. Mais nous sommes quand même ancrés au bord du Mississippi, à la Nouvelle-Orléans, et naturellement, on nous joue un air célèbre de là-bas, qui s'appelle
Bourbon Street Parade. Thank you.
De l'orgue à vapeur, nous passons maintenant au grand orgue. Car l'orgue qui a servi le plus dans le jazz, c'est l'orgue Hammond, hein, orgue électrique. Et son prédécesseur, le fameux Wurlitzer, qui servait dans les cinémas. Mais le grand orgue, personne n'a jamais su en jouer dans le jazz, sauf
Fats Waller.
Fats Waller a enregistré une série de 6 gospels au grand orgue, à Londres d'ailleurs, c'est sur un grand orgue ancien, qui sont restés absolument légendaires.
Faut pas oublier que Fats Waller est un enfant prodige qui a démarré sur l'orgue de l'église de papa qui était pasteur.
Et qu'il avait alors 4 ans.
Minou, hein.
C'est bien vrai. Et là, il se sert du grand orgue dans toutes ses possibilités. On voit qu'il connaît l'instrument vraiment de manière très complète et qu'il le pratique avec une énorme créativité. Parce que je veux dire que le Golden Moses que vous allez entendre, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant et qu'on ne fera plus jamais.
Ouais, ça a une ampleur et en même temps ça claque.
Ça swing et c'est d'une très grande poésie. Nous n'en dirons pas plus. Golden Moses par le grand Fats Waller. Après tous ces instruments inhabituels, nous allons terminer par les détournements d'instruments. Et pour commencer, voici quelque chose qui va beaucoup intéresser les joueurs de trombone à coulisses.
Quand on détourne un instrument, soit on met quelque chose dessus pour que c'est un autre son, soit on change les cordes. Mais Jack Teagarden, il a eu une autre idée, lui. Il a enlevé un bout de son trombone.
Le gros bout, celui où il y a le pavillon. Il ne restait plus que la coulisse.
Alors vous me direz, mais comment il va jouer ?
Eh bien simplement en coiffant l'extrémité de la coulisse, celle qui se branche dans le pavillon, avec un verre. Mais attention, si vous voulez vous servir d'un verre pour faire wah-wah à la trompette, wah-wah au trombone, ou ce genre d'exercice avec un demi-trombone, sachez que seule une catégorie de verres fonctionne, celle qui a une forme cylindrique. Donc, utilisez les verres à jus de fruits. D'ailleurs, ça vous évitera des pratiques très peu hygiéniques et trop alcoolisées. Donc, avec un verre à jus de fruits, au bout de sa coulisse, Tea Garden obtient une sonorité très proche de la trompette et tout à fait intéressante. Là, l'orchestre qui l'entoure, c'est un orchestre où son frère joue de la trompette d'ailleurs, Charlie Tea Garden, et puis quelques amis, puisqu'il a appelé ça le All Stars. Généralement, c'est ce qu'on fait quand on fait un orchestre de copains. Un tel et son All Stars. Et le morceau s'appelle
Jack Armstrong Blues.
Au début du morceau, vous allez entendre le demi-trombone de Tea Garden. Et puis, à la fin du morceau, vous allez entendre le trombone au complet. Ben, vous pourrez faire la différence.
Avoir enlevé la moitié d'un trombone, maintenant nous allons prendre quelqu'un qui a trouvé que finalement tout ça c'était bien encombrant et qu'on pouvait jouer, écoutez bien, uniquement avec l'embouchure. Ça se met dans la poche de poitrine si on veut, vous voyez, c'est pas très encombrant. Hein,
oui, d'ailleurs quand vous partez en tournée, comme ça vous prenez la brosse à dents et l'embouchure, c'est tout, voilà. Terminé. Et c'est Clark Terry, un immense musicien de jazz, qui a récemment disparu d'ailleurs à un âge très avancé, heureusement pour nous, parce qu'on a profité de Clark Terry jusqu'à largement au-delà de ses 80 ans. Et Clark Terry, lui, il a eu une idée absolument foudroyante. Il s'est orienté, là, pour le morceau qui vient, vers la trompette sans trompette.
Il faut quand même dire qu'il a un micro pour faire entendre le son de son embouchure.
Voilà, donc la trompette étant écartée, il ne reste plus que ce petit bout de métal. Et en américain, ça se dit « mouthpiece ». Forcément, c'est l'objet que vous mettez contre la bouche pour produire le son. Et le début du morceau, qui s'appelle naturellement
« Mouthpiece Blues », évidemment.
Le début du morceau fait entendre Clark Terry avec sa trompette en entier. Mais puis après, vous allez découvrir comment l'embouchure de trompette toute seule peut parler et même tenir le discours de plusieurs personnes à la fois, si bien qu'en fait ce morceau, tout ce passage à l'embouchure, c'est une véritable conversation.
Je conseille à tous ceux qui font de la trompette d'essayer, vous verrez, c'est à la fois amusant, mais pas si simple.
Nous vous laissons donc maintenant, pour conclure cette émission, avec Clark Terry et son petit théâtre.
Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.